Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le jeudi 16 septembre. Vous nous emmenez dans l'espace, Julien?
Oui, j'aimerais bien, mais il va falloir m'aider pour les sous, là, parce que le billet coûte 50 millions de dollars. Alors, en attendant qu'on ouvre un litchi, on va vous raconter ce décollage qui a eu lieu il y a tout juste 3 heures à Cap Canaveral, en Floride. C'est ce que vous venez d'entendre, le lancement d'Inspiration 4, fusée SpaceX, qui va passer les 3 prochains jours en orbite avec à son bord 4 touristes. Et c'est là la nouveauté, aucun astronaute professionnel, tout est automatisé, piloté par ordinateur ou depuis le sol. Paris osé pour leur réussite, mais est-ce bien sérieux de n'envoyer que des amateurs à plus de 500 km d'altitude? Ce lancement marque-t-il le début du tourisme spatial? Eh bien, ce sont les questions que l'on posera à 6h10 à notre invité Omblin, l'astrophysicien François Forget.
L'actualité de ce jeudi, ce sont aussi les conséquences des violents intempéries dans le sud-est.
Et ce lourd bilan, 9 personnes mortes noyées dans l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et l'Aude. On va y revenir dans quelques minutes dans le journal. Et puis on se mobilise en ce jeudi, Omblin.
Que vous soyez à Bordeaux, Limoges, Chambéry, Paris, Lille ou Strasbourg, 22 associations comme l'APF France Handicap, l'Association des Paralysés de France, la Ligue des Droits de l'Homme ou Solidarité SIDA appellent à une journée de mobilisation pour que l'AAH, l'allocation adulte handicapé, ne soit plus calculée selon le revenu de son conjoint. Des associations qui disent stop à la dépendance financière dans le couple. Plus de 50 actions sont prévues dans l'Hexagone, des manifestations, des faux mariages aussi, des rassemblements pour sensibiliser le grand public. On en parle à 5h40 avec Arnaud de Broca, le président du collectif Handicap.
Et puis on termine comme chaque matin par la musique et votre partition, Omblin.
Elle est devenue, selon le magazine Time, l'une des plus grandes artistes de son siècle, la grande prêtresse du jazz et de la soul, Nina Simone.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout.
Nina Simone à Paris au début des années 80, le récit à 6h20.
Voilà le programme et on commence avec la météo comme chaque matin. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Malheureusement, bonjour. La journée s'annonce encore perturbée dans le sud.
Oui, alors dans le sud-est cette fois-ci, avec beaucoup d'averses, quelques coups de tonnerre, mais enfin ça devrait quand même être beaucoup plus calme, puisque je suis quand même très heureuse de vous annoncer que pour une fois, nous n'avons aucun département placé en alerte orange ce matin. Alors des Pyrénées jusqu'à l'Alsace, en passant par le Rhône, il reste encore une bande assez large orageuse qui va traverser la France aujourd'hui. Bonne nouvelle aussi dans le golfe du Lion, sur le Languedoc et en particulier sur le Gard et l'Hérault. Après quelques averses encore ce matin, le temps redeviendra sec cet après-midi. Vous allez enfin revoir le soleil après deux journées de cauchemar. Sur la moitié nord de la Bretagne à la Gironde, des Hauts-de-France au Nivernais et sur la Bourgogne, sur la Lorraine et l'Alsace, et bien là, le ciel sera couvert ce matin, mais de belles éclaircies cet après-midi. Il fait déjà 12 degrés à Lille, 15 à Quimper, 17 degrés à Bergerac, 16 à Paris. Et cet après-midi, ça baisse un petit peu, 19 à 27 degrés. Je vais boire un café, je reviens tout à l'heure.
Avec plaisir, merci beaucoup Anissa Haddadi. Place à l'info, c'est contagieux finalement. Votre premier journal de ce jeudi 16 septembre. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
On l'avait appelé en 2016 le contrat du siècle. Et bien aujourd'hui, c'est plutôt le flop du siècle. Le premier ministre australien a officialisé cette nuit la rupture du contrat concernant l'achat de 12 sous-marins français. Ce sont 31 milliards d'euros qui s'envolent. Le sud sous le choc ce matin après la mort de 9 personnes noyées hier, dont 5 dans le département de l'Hérault. Des nageurs surpris par la houle suite aux violentes intempéries. Les sauveteurs appellent à la plus grande prudence. Et puis c'est une première mondiale. 4 touristes spatiaux américains entrent dans l'histoire. Ils se sont envolés cette nuit à bord d'une fusée SpaceX, 3 jours en orbite autour de la Terre. Un voyage qui marque peut-être le début d'une nouvelle ère. Et le journal de 5 heures vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous. C'était le 26 avril 2016. Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, se félicitait de la signature d'un méga contrat historique avec l'Australie pour la vente de 12 sous-marins à propulsion nucléaire par le français Naval Group, son montant 31 milliards d'euros.
C'est une grande victoire de l'industrie française. C'est une grande victoire de l'industrie navale française, qui intervient d'ailleurs après que l'industrie navale française ait engrangé d'autres contrats récemment dans l'industrie civile.
Alors à propulsion diesel hein, et non nucléaire. Alors ça c'était en 2016, mais cette nuit l'Australie a décidé de rompre le contrat.
Une décision regrettable, déclare le ministère des Affaires étrangères ce matin dans un communiqué. Elle ne fait que renforcer la nécessité de porter haut et fort la question de l'autonomie stratégique européenne. Dès hier, la presse australienne laissait sous-entendre que le gouvernement était en passe de mettre fin au contrat du siècle, Emmanuel Duteil.
C'est une situation ubuesque. Hier, dans les rangs français, on ne cachait pas son étonnement, même si ce contrat a été souvent attaqué. Personne ne s'attendait à un retournement de cette ampleur. Surtout que les travaux ont déjà commencé. Sur place, Naval Group a une équipe de plus de 300 salariés. Des contrats avec les sous-traitants australiens ont déjà été passés. Naval Group s'était engagé à ce que 60% de la valeur du contrat revienne à des Australiens. Alors c'est dire la stupeur, mais face au camp français, les États-Unis seraient arrivés comme ça, un peu à la dernière minute, avec une offre. Ils proposent une alliance à trois entre les Australiens, les Britanniques et eux pour faire face à la Chine. Et du coup, selon la presse australienne, ils pourraient développer tout un système commun de défense, système qui incorporerait donc des sous-marins. Et tout cela, c'est un énorme coup pour Naval Group et toute la filière française.
C'est d'ailleurs une grande déception, a déclaré le français Naval Group.
Bilan dramatique après les intempéries qui ont frappé le sud de la France.
9 personnes sont mortes noyées hier dans les Bouches-du-Rhône, l'Aude et l'Hérault, notamment en raison des phénomènes de houle portés par les orages, la pluie et le vent. Certains nageurs se sont aventurés dans une mer déchaînée alors que les postes de surveillance sont fermés depuis la fin des vacances. Frédéric Candaten, chef de secteur de la SNSM dans l'Hérault, appelle les habitants à la plus grande prudence.
On a juste eu un petit phénomène météorologique, un petit coup de sud-est, donc un vent qui crée une houle et des vagues en bordure de plage. La différence des vagues qu'on peut trouver en Atlantique, les périodes sont vraiment irrégulières et les vagues arrivent de partout et toutes les secondes. Donc du coup, vous êtes nagé, vous prenez une vague sur la tête, bon, vous êtes un peu garçonner, hop, vous prenez un peu la tasse, vous voulez respirer, clac, il y a une deuxième qui vous tombe sur la figure, vous remontez la tête, clac, une troisième, et puis c'est la série qui continue, et puis c'est là où la navette commence. Les postes secours sont fermés, il faut demander aux gens de faire très attention, et de ne pas s'éloigner, et de rester au bord de l'eau, et ne pas s'aventurer dans les vagues s'ils n'ont pas une bonne condition physique, ou s'ils n'ont pas à côté d'eux une planche ou un moyen de flottabilité qui permet leur sécurité en tant que cas de problème.
Et ce matin, plus aucun département n'est en vigilance.
Hier, c'était la rentrée au Parlement européen à Strasbourg.
Avec le discours annuel d'Ursula von der Leyen sur l'état de l'Union, un discours très macroniste porté sur le renforcement de l'autonomie de l'Union européenne. À 3 mois de la présidence française, industrie, défense, environnement, numérique, la présidente de la Commission plaide pour une Europe plus souveraine, Isabelle Horry.
Oui, c'est vrai que les planètes ont l'air de s'aligner. Les idées françaises ont clairement la cote à Bruxelles. Prenons la défense européenne. Ursula von der Leyen a annoncé qu'il y aura un sommet des chefs d'État sur le sujet pendant la présidence française. Et l'ex-ministre allemande de la Défense s'est lancé dans un plaidoyer pour plus d'autonomie vis-à-vis des États-Unis, inimaginable il y a quelques années.
L'Europe peut et clairement devrait faire plus toute seule. Ce qui nous a retenus jusqu'ici, ce n'est pas seulement un manque de moyens, c'est un manque de volonté politique. Si nous en avons la volonté, nous pouvons faire beaucoup au niveau européen.
Plus concrètement, elle propose qu'il n'y ait pas de TVA prélevée sur les achats d'armements fabriqués en Europe, une manière de dissuader d'acheter américain. La présidente de la Commission a aussi insisté sur la souveraineté industrielle, autre thème cher à la France. Elle promet une loi sur les semi-conducteurs pour augmenter les capacités européennes et réduire la dépendance vis-à-vis du reste du monde. Dans l'hémicycle, le commissaire français Thierry Breton était tout sourire.
Isabelle Horry, correspondante à Bruxelles pour Europe 1, et puis sur le volet sanitaire, Ursula von der Leyen a annoncé l'envoi de 200 millions de doses de vaccins contre le coronavirus aux pays pauvres d'ici mi-2022. Elles viennent s'ajouter aux 250 millions déjà promises. Inflation oblige, le SMIC va augmenter automatiquement à partir du 1er octobre, le plus 34,89 € sur la fiche de paie. Le salaire minimum passera donc de 1554,58 € à 1589,47 € brut par mois. C'est une hausse mécanique prévue par le Code du travail dès que que l'inflation dépasse 2%, le SMIC augmente dans la même proportion. Et face à la hausse des prix, 5 800 000 ménages modestes déjà éligibles au chèque énergie recevront au courant décembre un autre chèque de 100 euros pour les aider à payer leurs factures d'électricité, de fioul ou de gaz. Annonce de Matignon, hier soir, les foyers concernés n'ont aucune démarche à effectuer.
On a visé la France, mais il n'y avait rien de personnel.
Ouais, des propos glaçants tenus par Salah Abdeslam, principal accusé au procès des attentats du 13 novembre 2015. Dans le box, il a justifié sa participation par l'intervention militaire française contre l'État islamique en Syrie. Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, tué par les forces françaises. C'était le chef du groupe État islamique au Grand Sahara. Un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel, a réagi cette nuit Emmanuel Macron.
Cela fait maintenant 3 heures que 4 Américains ont la tête dans les étoiles, les premiers vrais touristes spatiaux.
La fusée de SpaceX a donc réussi son décollage tout à l'heure depuis la mythique aire de lancement 39A au Kennedy Center de la NASA en Floride, d'où décollaient les missions Apollo vers la Lune. Les 4 passagers n'ont aucune expérience de l'espace. Ils vont pourtant y rester pendant 3 jours. Alexis Guilleux, il était 20h03 en Floride, 2h03 en France quand les moteurs se sont allumés.
Oui, les 9 moteurs de la fusée ont propulsé l'équipage dans le ciel de Floride sous les acclamations des ingénieurs de SpaceX. 15 minutes plus tard, à plus de 27 000 km/h, nouveaux applaudissements quand la capsule entre en orbite. À bord, les 4 touristes de l'espace sont habillés tout en blanc et ils lèvent leurs pouces pour signifier que tout va bien. Cette équipe a suivi une formation de 6 mois pour se préparer à ce voyage. Des exercices dans une centrifugeuse, un entraînement à la pesanteur, mais aussi du camping en commun pour apprendre à se connaître parce qu'ils vont passer 3 jours ensemble dans cette capsule aussi grande qu'un gros SUV. À la tête de cette mission, un jeune milliardaire de 38 ans, Jared Isaacman, pilote et passionné d'aviation. C'est lui qui a tout payé et le montant est resté secret. Alors ce n'est pas une mission scientifique, mais l'équipage va tout de même devoir se livrer à des tests médicaux pour connaître l'effet de ce voyage spatial sur l'organisme des participants. Enfin, dans 3 jours, la capsule redescendra et s'écrasera en mer au large de la Floride.
On passe au foot et pour leur entrée en lice en Ligue des Champions, les joueurs du Paris Saint-Germain ont déçu hier soir.
Oui, malgré la sortie du trio magique Messi, Neymar, Mbappé, Paris a été tenu en échec par Bruges avec un but partout. Un véritable exploit pour les Belges qui ont célébré ce match nul comme une victoire, Jean-François Pérez.
Une clameur formidable pour les généreux joueurs brugeois, un camouflé pour les superstars parisiennes qui ont pris une bonne leçon de modestie. Neymar transparent, Mbappé rapidement blessé, Messi a pris le match en main, a failli marquer 2 fois pour sa première européenne parisienne. Mais autour de lui, comme enivré par sa présence, le PSG se voit trop beau. Constat en forme d'avertissement de notre consultant Laurent Fournier.
Vous avez la chance de jouer avec des joueurs qui ont des qualités comme Mbappé, comme Neymar, comme Messi. Vous vous mettez à la disposition du groupe. Là, j'ai eu l'impression que eux, ces milieux de terrain-là, se prenaient pour Messi, pour Mbappé ou pour Neymar. On va essayer de se bouger, la Champions League, ça arrive vite. Hein. Si vous perdez contre City au Parc des Princes, ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain.
Ce PSG orphelin de Verratti et de Di Maria serait en effet bien inspiré de réagir rapidement dans l'autre match de la soirée. Les Anglais ont surclassé les Allemands de Leipzig 6-3. Ils débarquent dans moins de 2 semaines au Parc des Princes pour ce qui s'annonce déjà comme le sommet du groupe. Bruges, Jean-François Pérez, Europe 1.
Et c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci Alban.
Il est 5h10 sur Europe 1, c'est l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et mon pari gagnant sera le 102 Chafaf. Lauréat sans aucune émotion de ses 2 premières courses à Compiègne puis à Clairefontaine, il a dû ensuite se contenter d'une honorable 4e place le 15 août à Deauville, mais tout n'était pas forcément réuni ce jour-là pour qu'il puisse fournir sa meilleure valeur. Dépendant d'un entraînement très sérieux et qui ne laisse jamais rien au hasard, celui de Jean-Claude Rouget, je sais que ce poulain a très bien retravaillé depuis. Dès lors, il doit pouvoir, dès cet après-midi, renouer avec la victoire. Alors notez bien, pour Paris-Longchamp, réunion 1, dans la première course, le numéro 2, Chafaf.
Chafaf, très joli nom, le numéro 2, c'est noté. Merci Thierry Léger, on vous retrouve dans une demi-heure pour vos pronostics du Quintet. Bon réveil sur Europe 1, vous restez avec nous dans une petite minute, c'est le pressing.
Oui, les articles que l'on a dénichés ce matin dans la presse pour vous, avec au menu les 40 ans du TGV, des mammouths sur le retour et un virus tenace.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Excellent jeudi matin, bon réveil avec nous. On est très heureux de vous avoir ici à nos côtés, très. Avec nous, oui, très. Dans le nous, il y a aussi Martin Lange qui vient de nous rejoindre pour le pressing. Bonjour.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour.
Bonjour Martin.
Et on commence, Julien, avec un rapide coup d'œil aux unes de vos quotidiens.
Oui, mon général, j'aime bien quand vous me parlez comme ça, quand c'est directif.
C'est des ordres.
Vaccination, 50 millions ou presque, titre Libération, avec pour illustration un Emmanuel Macron tout sourire, noyé sous une pluie de confettis, comme s'il venait de gagner au loto. 50 millions, ce sera bientôt le nombre de Français ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid. Aujourd'hui en France, pour sa part, nous propose un dossier spécial sur les journées du patrimoine qui débutent ce week-end. Ces monuments sauvés par le loto, titre Le Quotidien, qui fait un focus sur les sites restaurés grâce à la loterie lancée par notre ami Stéphane Bern. Et puis, fantomatique, c'est le qualificatif que l'on peut lire à la une de L'Équipe, qui revient en lice sur l'entrée en lice ratée du Paris Saint-Germain hier soir en Ligue des Champions. Match nul, un partout face à Bruges. Voilà pour les unes. Omblin, on commence avec vous.
Savez-vous quel âge a le TGV, à peu près?
Il y aurait une trentaine, quarantaine d'années.
40 ans, pile poil, ou presque. Bon anniversaire, le train à grande vitesse. Ça, c'est vintage. Hein. Le premier TGV a quitté la gare de Lyon le 22 septembre 1981 à 14h16 pour se diriger vers, je vous le donne en mille, Lyon. Hein. Vous êtes attentifs, bien sûr.
Un trajet de deux.
Oui, la gare de Lyon à Paris. Un trajet de 2h40 contre 4h auparavant. C'est la une du quotidien La Croix ce matin, le journal qui explique comment ce train, tout orange hein, à l'origine, avec son nez aérodynamique, a transformé la vie des Français. Grâce au TGV, figurez-vous, la France a rétréci. On ne parle plus en termes de distance kilométrique, mais en temps de trajet. Bordeaux n'est plus à 500 km de Paris, mais à 2h. Voilà. Mmh. Reims et Rennes sont aux portes de la capitale. Les voyageurs passent d'une grande ville française à une autre, alors qu'avant, personne ne s'éloignait guère de sa région. Deux mondes séparés, le nord et le sud. Désormais, on part en week-end à Marseille, au départ de n'importe où en France. Les deux tiers des voyageurs se déplacent pour leurs loisirs et pour des raisons familiales. Le tiers restant est composé de travailleurs. Voilà, le TGV a donné un coup d'accélérateur à la mobilité et a créé un nouveau type de salarié, le salarié spécialiste des longues distances. Ce salarié qui a fait le choix d'habiter donc à une heure ou deux de son lieu de travail. Le journal prend comme exemple le Paris Tour, hein, qui compte entre 3000 et 4000 voyageurs quotidiens travailler à Paris avec un salaire parisien et retrouver la tranquillité de la province. Entre une heure debout dans un RER bondé et une heure assis dans un TGV, le choix est vite fait pour certains en tout
cas.
C'est
pas le même coup non plus, hein.
Avec, oui, évidemment, on va en parler, avec en plus un petit peu de télétravail pour alléger la semaine. Confort de vie, prix de l'immobilier plus accessible, à condition, effectivement, mon cher Julien, de pouvoir supporter le coût de l'abonnement du TGV qui s'élève à quand même 600 euros par mois.
Tout le monde... 600 euros par mois ?
Oui. L'abonnement. Par an.
Par an, oui. Oui, parce que 600 euros par mois, je ne pense pas que ça soit possible.
Je vais vérifier, il me semble que c'est par mois. Tout le monde ne peut pas s'offrir parce que ça fait cher. 600 euros par an ? Je vais vérifier. Le TGV n'échappe pas aux critiques, son prix, ses retards. Il concentre le plus gros des investissements ferroviaires. Il a fait une victime, le train de nuit. Le TGV a transformé la vie des Français. C'est dans La Croix.
Merci Omblin. Martin.
Alors Omblin, Julien, vous vous souvenez peut-être de Jurassic Park ?
Ah bah oui.
En même temps, vous nous le mettez tous les jeudis. Ouais,
exactement. Hein.
C'est toujours
exactement.
Un plaisir d'entendre Jurassic Park.
Avec John Hammond, ce milliardaire excentrique qui redonne vie à des dinosaures grâce à la génétique. Eh bien, figurez-vous que la réalité est peut-être en train de rattraper la fiction. Alors, pas avec des dinosaures, hein, mais avec un mammouth. 4000 ans après sa disparition, hein, une entreprise de biotechnologie américaine, elle s'appelle Colossal, se lance dans un projet fou, réintroduire le mammifère géant dans la toundra de Sibérie.
Alors, comment compte-t-il s'y prendre ?
Alors, grâce à la extinctions, ça paraît logique. Hein. Alors plus sérieusement, c'est un procédé génétique qui consiste à insérer des séquences ADN de mammouths collectées sur des ossements, par exemple, dans le génome d'éléphants d'Asie. En fait, ce n'est pas vraiment le mammouth qui va renaître, hein, mais plutôt une espèce hybride qui va naître, un mélange de mammouth et d'éléphants. Alors le John Hammond du mammouth, un certain George Church, généticien à l'origine du projet, il croit dur comme fer. Hein. Notre objectif est de fabriquer une sorte d'éléphant résistant au froid jusqu'à moins 40 degrés et qui aura toutes les caractéristiques caractéristiques du mammouth. Ce projet peut paraître complètement utopique, voire loufoque, mais il aurait aussi des vertus écologiques. Ces pachydermes génétiquement modifiés pourraient permettre de redonner vie aux prairies arctiques, des espaces qui captent le dioxyde de carbone et suppriment le méthane, deux gaz à effet de serre. Il pourrait également permettre de recréer tout un écosystème qui a disparu. Alors vous imaginez bien que le projet a déjà un certain succès. L'entreprise colossale a levé 15 millions de dollars de fonds privés. Mais dans la communauté scientifique, le scepticisme est de mise. Certains chercheurs doutent de la faisabilité de cette technique, quand d'autres s'inquiètent des risques de son application. Un paléontologue, du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, un certain Tory Herridge, résume sur Twitter « Ce n'est pas une désextinction, il n'y aura plus jamais de mammouth sur Terre. Si cela fonctionne, ce sera un organisme totalement nouveau, synthétique et génétiquement modifié. Le mammouth laineux va-t-il vraiment renaître en Sibérie ?» C'est à lire sur le site de West France.
Merci Martin et mea culpa, ma chère Ombline.
C'est bien 600 euros par mois.
Ouais, ça me paraît totalement délirant.
Oui, mais en même temps, 600 euros par an, c'est pas beaucoup.
Bah oui, ça fait 60 euros moins de 60 euros par
exactement,
mois.
Exactement, donc tout le monde s'abonnerait. Et il faut savoir aussi qu'avec un tarif comme ça, quand c'est un abonnement, on peut voyager partout en France à bord d'un TGV.
C'est noté. Finalement. Merci. Voilà. Merci Ombline de la SNCF. J'ai choisi pour ma part, un article du Figaro qui nous parle d'une découverte pas du tout rassurante.
Ah bon ? Une découverte pas du tout rassurante ? Laissez-moi deviner, vous allez parler réchauffement climatique. Non. Un nouveau variant du Covid. Très, très, très dangereux.
Alors, je vais bel et bien vous parler d'un virus, mais qui n'a rien de nouveau. Ebola. Et là, en prononçant ce mot, je vous vois, Ombline, Martin, vous raidir et frissonner. Il y a de quoi. En même temps, ce virus est responsable d'une fièvre hémorragique pouvant tuer jusqu'à 80% des personnes infectées. À l'origine, Ebola est un fléau venu des forêts d'Afrique centrale qui s'est ensuite propagé plus à l'ouest, avec notamment l'épidémie majeure en 2014-2016. On s'en souvient, plus de 11 000 morts officiellement en Guinée, Sierra Leone et Libéria. Il se transmet à l'homme par contact avec des animaux contaminés. C'est pourquoi le virus touche souvent en premier des chasseurs. En février dernier, à Gweke, en Guinée, un nouveau cluster est détecté. Or, le patient zéro n'est pas un chasseur, mais une infirmière qui, a priori, n'a eu aucun contact avec une personne contaminée. Première surprise. La deuxième, c'est le résultat du séquençage génétique du virus qu'ont fait les chercheurs guinéens. L'infirmière a été contaminée par la souche Ebola Zaïre, la même à l'origine de l'épidémie en 2014-2016. Ce qui est très étonnant, vu qu'en temps normal, à chaque nouvelle apparition du virus, la souche est différente. Il y a toujours des différences. Et là, il n'y en a pas. C'est comme si cette infirmière était remontée 5 ans en arrière. Alors interloquée, une équipe de chercheurs franco-guinéens a décidé d'analyser plus en détail cette anomalie. Et ce qu'ils ont découvert change absolument la donne. Ils révèlent que de rares survivants d'Ebola conservent longuement le virus à l'état latent dans leur organisme jusqu'à pouvoir redevenir contagieux des années après leur guérison. Une notion de guérison qui devient du coup relative, d'autant qu'il est impossible à ce stade de prédire quel ex-malade sera en mesure de transmettre le virus par la suite. Voilà donc cet article passionnant effrayant.
Oui, ça va. Non.
Qui est à lire aujourd'hui dans le Figaro.
On guérit, mais on guérit pas. On guérit un peu, mais pas beaucoup. Bon, merci Julien.
Pour ces bonnes nouvelles.
Voilà. On referme le pressing et Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour le Journal des Sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1, les principaux titres de l'actualité de ce jeudi. C'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
L'Australie rompt le contrat d'achat de 12 sous-marins conventionnels conclus avec la France en 2016. Un contrat à 31 milliards d'euros qui tombe à l'eau. Décision regrettable, assure le ministère des Affaires étrangères ce matin dans un communiqué. L'inflation dépasse 2%. Le SMIC augmenté le 1er octobre près de 35 euros brut en plus sur la fiche de paie. Une hausse mécanique prévue par le Code du travail. Les prix de l'énergie augmentent. 5 800 000 foyers modestes éligibles au chèque énergie vont recevoir en décembre un autre chèque d'un montant de 100 euros pour payer leurs factures d'électricité, de gaz ou de fuel, annonce de Matignon hier soir. Enfin, certains partent en week-end en Normandie. Eux vont dans l'espace. 4 touristes américains ont décollé cette nuit de Floride à bord d'une fusée de SpaceX direction les étoiles. Ils passeront 3 jours en orbite autour de la Terre.
Il est 5h20, très bon réveil à tous. J'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer, car ce matin, les initiatives en France vont nous faire prendre le large.
Bonjour Arnaud Huvelin.
Bonjour Julien, bonjour Europe 1.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes membre fondateur d'un collectif toulousain, l'association Bâtard, sans D à la fin, ça veut dire bateau en islandais. Et vous vous êtes lancé un énorme défi, construire le Drakkar le plus rapide du monde et traverser l'Atlantique au printemps 2024. Alors dit comme ça, ça semble totalement fou, vous êtes d'accord?
C'est vrai que quand on le dit, sorti du contexte de nos réunions et de nos rencontres, ça paraît un peu fou finalement. Ouais.
D'où vous est venue cette idée?
En fait, le collectif, il a plus de 10 ans. À la base, c'était un projet d'amis pour rester en contact et surtout concrétiser la passion de fabriquer des choses et la passion d'explorer, de partir à l'aventure. Et le bateau, le Drakkar, ça représentait bien l'ensemble des deux. Ben, ça a bien marché. Il y en a même un de nous qui a créé une entreprise suite à ça, qui fabrique des meubles en bois. Et après avoir fabriqué un deuxième bateau de 12 mètres de long et avoir navigué en mer du Nord en été 2020, on s'est rendu compte que on pouvait continuer et on a eu envie d'aller plus loin.
Alors, ce nouveau Drakkar que vous allez construire sera plus gros que le navire dont vous venez de nous parler, 28 mètres de long pour 6 de large. Vous vous basez sur des plans déjà existants?
Alors non, sur celui-là, on ne se base pas sur des plans existants, mais on a bien bossé avant. Les deux premiers qu'on a construits sont construits à la base sur des plans de navires existants, c'est-à-dire d'épaves de bateaux vikings qui ont été retrouvés le long des côtes du Danemark ou de la Norvège. Et donc, on a respecté, disons, de manière assez scrupuleuse la manière dont c'était construit. Mais nous, on y a apporté une touche de modernité puisque on les fabrique comme si les Vikings avaient continué de les fabriquer au XXIe siècle. C'est-à-dire en utilisant des matériaux modernes, le lame et les collets, et en utilisant des techniques modernes comme les CNC qui permettent de faire des découpes de bois. Et c'est pour ça qu'on arrive à construire nos bateaux beaucoup plus vite que la construction de bateaux vikings traditionnels, parce qu'on utilise des outils et des matériaux modernes. Et c'est aussi l'avantage d'utiliser des outils et des matériaux modernes qui en font des drakkars extrêmement rapides, puisque nos bateaux sont plus légers que les navires traditionnels vikings. Et du fait de l'étanchéité, c'est-à-dire nous utilisons de l'époxy pour étanchéifier les bateaux, enfin, ils glissent mieux sur l'eau. Donc ça fait que ces deux premiers navires qu'on a construits battent déjà tous les records par rapport aux navires de taille similaire. Et le prochain, il n'y a pas de plan qui existe de la taille que nous on veut construire. Donc on va se baser avec toute l'expérience qu'on a et on est accompagné par la Viking Ship Family sur la construction traditionnelle de bateaux vikings, mais il n'y a pas de plan, donc c'est nous qui allons tout faire de A à Z.
Mais attendez, c'est pas donné à tout le monde de construire un bateau, a fortiori un Drakkar. Vous travaillez dans la construction navale ou vous êtes de simples passionnés, entre guillemets?
Ça fait partie des valeurs qu'on aime défendre. On lutte un peu contre, je dirais, l'ingénierie classique française. Il faut avoir un diplôme pour être ingénieur. Nous, on est persuadés de l'inverse. Il faut juste avoir envie pour faire des choses. Une fois qu'on a envie, il suffit de s'entourer, il suffit de faire des erreurs et nous, on est persuadés qu'on peut tout faire. On en est la preuve vivante. Aucun de nous n'est ingénieur naval. Aucun de nous n'a fait des études de construction de bateaux ni même quoi que ce soit lié au bateau. Et pourtant, on a réussi déjà à construire deux bateaux qui flottent, ce qui est une bonne première chose, qui naviguent. Et surtout, quand on l'a montré à des constructeurs de bateaux vikings en Norvège et au Danemark, et bien, ils étaient très impressionnés de ce qu'on avait réussi à faire. Et ils nous ont donné des conseils pour aller encore plus loin. C'est une des très grosses valeurs qu'on véhicule et qu'on veut défendre à tous les gens qui nous écoutent et qui nous entourent, c'est leur montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour faire des choses.
Quel sera le programme de cette traversée de l'Atlantique prévue au printemps 2024?
Alors, on part de Toulouse, puisque le bateau sera construit dans la ville de Toulouse, dans un lieu qui est encore tenu secret à ce jour, mais il sera construit au bord du canal du Midi. On va prendre ensuite le canal des deux mers qui rejoint Toulouse à Bordeaux. Arrivé à Bordeaux, on arrive enfin dans l'océan. On va longer les côtes françaises pour remonter jusqu'à Brest et ensuite arriver en Angleterre. De l'Angleterre, on fera l'Écosse, puis l'Irlande. Et ensuite, on ira aux îles Féroé, puis en Islande, puis au Groenland, en passant par le Canada. Et pour finir, une arrivée à New York au printemps été 2024. La totalité de cette traversée devrait prendre environ un mois et demi.
Oui, ce qui est absolument impressionnant, surtout à bord d'un Drakkar. Merci beaucoup Arnaud Huvelin d'avoir partagé avec nous cet incroyable projet. Je rappelle le nom de votre association, Bâtard, et je précise que vous cherchez des financements, des sponsors ou des dons. À très bientôt sur Europe 1.
Merci Julien, bonne journée.
Merci de choisir Europe 1, il est 5h25, et tout de suite c'est de Kid Laroi. À peine 18 ans et c'est la nouvelle star du hip-hop, il est australien, il est accompagné de Justin Bieber.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, bon début de matinée avec Europe 1. Nous sommes le jeudi 16 septembre et on va s'intéresser dans les minutes qui viennent à une question sensible qui agite en tout cas depuis plusieurs mois le débat parlementaire.
Oui, il s'agit de l'individualisation de l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Une proposition de loi est actuellement en discussion pour que cette aide ne soit plus calculée en fonction des revenus du couple, mais individualisée. Autrement dit, qu'une personne en situation de handicap ne dépende plus financièrement de son conjoint. C'est ce que demandent de nombreuses associations. Elles appellent aujourd'hui à une grande mobilisation nationale. On en parle dans 10 minutes avec le président du collectif Handicap.
Et puis juste après, on va redécouvrir l'une des pierres angulaires de notre patrimoine gastronomique, le fameux jambon de Paris. Mais attention, pas celui que vous trouvez en grande surface,
ah
non.
Bah non.
Olivier Pouls nous a dégoté l'un des tout derniers jambons de Paris élaborés dans la capitale. Mais avant d'attaquer la charcuterie, revenons à l'essentiel, la météo malheureusement très agitée ces derniers jours, Anissa Haddadi. Encore pas mal d'averses aujourd'hui au programme.
Oui, alors aujourd'hui, ça concerne le sud-est parce que cette dépression pluvio-orageuse, elle est en train de se déplacer vers l'est. Alors là, déjà ce matin, on a des pluies assez soutenues sur le Var. On a même quelques impacts de foudre actuellement. Donc c'est dans ce secteur, entre le Var et les Alpes-Maritimes, que la journée sera la plus agitée aujourd'hui, avec pas mal de précipitations. On attend des cumuls importants, mais je vous rassure, pour l'instant, pas de vigilance orange dans le secteur. Mais c'est vrai qu'entre les Alpes et les Alpes-Maritimes, donc entre Grenoble et Nice, là, ça risque d'être agité. Dans la matinée, sur le Pays Basque et sur le Val-de-Saône, là aussi, quelques petits orages qui éclatent. Attention, hein, ce matin, sur le sud du Massif central et la vallée du Rhône, on a pas mal de brouillard. Donc si vous prenez la route, levez le pied. Dans l'après-midi, les orages vont se généraliser sur toute la moitié sud de la France. Alors, bonne nouvelle tout de même, on a des orages partout, mais il y a un petit microclimat qui va concerner cette fois-ci le Gard et l'Hérault. Comme quoi, la roue tourne,
les départements les plus touchés ces derniers jours.
Ouais. Et ça fait du bien, puisque cet après-midi, sur le Gard et l'Hérault, c'est le soleil qui revient et le temps redevient sec. On a 11 degrés actuellement à Beauvais, 12 à Charleville-Mézières, 18 à Bordeaux, 16 degrés à Paris. Cet après-midi, ça baisse bien, hein, seulement 21 degrés à Lille, 23 à Paris et 28 pour Nîmes.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe 1. C'est votre journal, 5h30.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
Emmanuel Macron n'écarte pas l'idée d'un allègement du pass sanitaire dans certains départements. Le président en déplacement dans l'Eure-et-Loire estime que la France est sur la bonne voie au regard de la situation épidémique. Face à la flambée des prix de l'énergie, l'État fait un geste pour les plus modestes, un chèque exceptionnel de 100 euros pour permettre de régler les factures. Près de 6 millions de ménages sont concernés. Le procès des attentats du 13 novembre 2015, Salah Abdeslam explique avoir visé la France parce qu'elle avait bombardé l'État islamique en Syrie. On a visé des civils, mais il n'y avait rien de personnel, a-t-il dit. Des propos qui choquent les rescapés. Et puis les exportations de champagne français reprennent vers la Russie, mais c'est bien Moscou qui a remporté la première bataille, celle des étiquettes. Désormais, le champagne français prendra l'appellation mousseux. Et le journal de 5 heures vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. C'est une phrase prononcée au détour d'une conversation. Emmanuel Macron était hier en visite à Illiers-Combray dans l'Eure-et-Loire. Adepte du bain de foule, le président est allé à la rencontre des habitants pour échanger quelques mots. Interrogé sur le pass sanitaire, il a donc évoqué pour la première fois un allègement des contraintes dans les départements où l'épidémie est en recul. Jacques Seret.
De Marcel Proust à la vaccination, il n'y a qu'un pas. À peine sorti de la maison où l'écrivain passait ses vacances, Emmanuel Macron se retrouve face à une aide-soignante.
J'étais très déçue de l'obligation vaccinale. Voilà, c'est tout.
Et vous vous êtes fait vacciner, vous ?
Ben, j'avais pas le choix pour aller au travail.
Je comprends très bien ce que chacun ressent. Moi, je respecte beaucoup, mais on ne pouvait pas laisser courir ce risque collectif. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir fait cet effort.
Quelques mètres plus loin, c'est cette fois une femme anti-vaccin et enceinte de 6 mois qui l'interpelle.
Le pass sanitaire, est-ce qu'il va être continué après le 15 novembre ? J'ai mon concubin, j'aimerais qu'il soit avec moi à la salle d'accouchement.
Oui, il y a des départements où on va être amené de toute façon à alléger un peu les contraintes en fonction de l'évolution de l'épidémie. Donc on va faire ça comme d'habitude avec pragmatisme.
D'accord, donc on saura.
C'est pour quand ?
Pour le 13 décembre.
Je pense que si on continue à tenir le bon bout comme ça, dans les départements, ça s'allège.
Merci beaucoup.
Le chef de l'État optimiste face à ses habitants, comme nous vous le révélions hier, l'Élysée compte faire un point dans une dizaine de jours avec les principaux acteurs de la gestion de la crise sanitaire, en vue éventuellement de commencer à lever certaines restrictions.
Une réunion dans une dizaine de jours pour faire le point sur la situation et parmi les indicateurs scrutés par l'exécutif, il y a le taux d'incidence. Il vient de repasser pour la première fois sous les 100 cas pour 100 000 habitants. C'est une première depuis juillet. Il y a un mois, ce taux flirtait avec les 250.
Et dans les hôpitaux, la pression se fait chaque jour un peu moins forte.
La baisse se poursuit notamment dans les services de réanimation et de soins critiques. On est repassé sous la barre des 2000 malades contre plus de 2200 il y a une semaine. Et puis à propos des tests de dépistage, les données personnelles d'1 400 000 personnes ont été dérobées en Île-de-France. Conséquence d'une attaque informatique qui a visé les hôpitaux parisiens de l'APHP. Les pirates ont mis la main sur l'identité, le numéro de sécurité sociale ainsi que les coordonnées personnelles de certains patients. Enfin, plus aucun département n'est en alerte orage et inondation. Dans le Gard, les opérations de nettoyage ont commencé. Dans l'Hérault et les Bouches-du-Rhône, on déplore 7 morts par noyade en Méditerranée. Les victimes âgées de 58 à 71 ans se baignaient dans une mer très agitée.
On vous parle régulièrement sur Europe 1 du retour de l'inflation. C'est assez flagrant quand on regarde les prix de l'énergie, notamment le litre de sans-plomb qui frôle les 2 euros. Eh bien, l'État va faire un geste supplémentaire pour les plus modestes.
On se rappelle que la révolte des Gilets jaunes est née de là, d'une hausse des prix du carburant. Le gouvernement ne veut pas revivre un tel scénario et face à cette flambée des coûts, l'État va donc envoyer un chèque de 100 euros aux ménages les plus modestes, c'est-à-dire ceux qui bénéficient déjà du chèque énergie, Maud Descamps.
Oui, les 6 millions de bénéficiaires du chèque énergie vont recevoir un chèque complémentaire de 100 euros pour payer leurs factures d'électricité, de gaz ou de fioul. Il n'y aura aucune démarche à faire. Le chèque sera automatiquement envoyé par courrier. Ce sera au mois de décembre. Ces 100 euros viennent s'ajouter au chèque énergie déjà distribué au printemps et dont le montant s'élève en moyenne à 150 euros. Il s'agit donc d'un coup de pouce conséquent pour ces ménages aux faibles revenus. Il faut savoir que le prix du gaz, par exemple, a augmenté de près de 9% début septembre après une hausse de 5% en août. Cette hausse du prix de l'énergie suscite beaucoup d'inquiétudes au sein du gouvernement à 7 mois de l'élection présidentielle, car il ne faut pas oublier que c'est justement la hausse du prix de l'énergie qui avait été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes en 2018.
Maud Descamps, l'autre conséquence de cette inflation, c'est la revalorisation du SMIC dont l'indice est adossé à l'évolution des prix. L'augmentation atteindra 34,89 euros très précisément dès le 1er octobre.
On en vient au procès des attentats du 13 novembre 2015. Les accusés se sont expliqués hier pour la première fois.
Et c'est peut-être le premier temps fort de ce procès, cruel à entendre mais essentiel pour comprendre la mécanique meurtrière qu'ont enclenché les 14 accusés présents dans le box. Salah Abdeslam, dernier membre vivant du commando qui a semé la mort entre Saint-Denis et Paris, s'est brièvement justifié. On a visé la population, mais il n'y avait rien de personnel. C'est la France qu'on visait parce qu'elle a bombardé l'État islamique en Irak et en Syrie. Des propos qui ont choqué les partis civils comme David, rescapé du Bataclan.
On s'est toujours demandé ce qu'il avait dans la tête. Bah maintenant, on sait quoi. J'ai l'impression qu'il a utilisé ces 6 dernières années comme une grande prise de respiration et que d'un coup, il s'est dit bon bah allez, je me lance, c'est ma tribune. Et c'est fou quoi. Enfin nous, on a mis 6 ans, on continue d'essayer de s'en remettre et je sais pas, c'est terrible. En tant que victime, on a vécu ça, on a été visé, on a été personnellement touché quoi. Et là, d'un coup, on nous dit ouvertement comme ça que en fait, c'est pas de votre faute, mais bon, vous étiez là donc. Pas de chance, quoi. Et c'est d'une indignité absolue, en fait. Je me révolte facilement, je suis en colère, je suis vivant, quoi, en fait. Il y a des gens qui sont plus là aujourd'hui. Et... Enfin, la violence, quoi. La violence d'entendre ça, Ouais, je sais pas, j'ai pas les mots, quoi.
David, un rescapé du Bataclan, parti civil dans ce procès des attentats du 13 novembre, il répondait à Gladys Laffitte. La France qui annonce avoir tué le chef du groupe État islamique au Grand Sahara, Adnan Abou Alid Al-Sahraoui, se trouvait à proximité de la frontière entre le Mali et le Nigeria lorsqu'il a été abattu par l'armée française. Il avait notamment ordonné l'assassinat de 6 humanitaires français et de leur guide et chauffeur nigérien. Il était présenté comme le contrat du siècle, l'Australie vient de le déchirer. Le Premier ministre annonce renoncer à l'achat de 12 sous-marins français pour 31 milliards d'euros. Les Australiens ont décidé de se fournir auprès des Américains et des Britanniques avec lesquels ils viennent de nouer une alliance militaire.
Entre la France et la Russie, la guerre des champagnes a bien eu lieu et ce sont les Russes qui ont remporté la première bataille.
Après 2 mois de blocus, le comité interprofessionnel du vin de champagne a donc baissé les armes. Il reprend les exportations vers la Russie et accepte de modifier l'étiquette. Son champagne s'appellera désormais mousseux. Ceci afin de ne pas faire d'ombre au pétillant russe qui, lui, continue de bénéficier de la prestigieuse appellation. Marion Gauthier.
On a remplacé le mot champagne scoyer par un mot que je suis incapable de vous prononcer, qui veut dire vin mousseux.
Qui ne veut rien dire pour Jean-Marie Barillère. C'est l'estomac noué que le président de l'Union des maisons de champagne a découvert la nouvelle étiquette.
Même si c'est écrit en petit, ne pas pouvoir écrire le mot champagne en cyrillique nous donne des boutons. C'est la prunelle de nos yeux. Enfin, c'est le bien collectif de tous les champenois. Ça s'appelle du vol ou d'usurpation de la propriété intellectuelle.
Des centaines de bouteilles à la file, des machines enfoncent les bouchons, fixent les capsules par-dessus. Pour la paix économique, les bulles resteront sans appellation. Clovis Tétinger, directeur général du groupe familial, relativise.
Nous nous conformons à ce climat d'apaisement. Il n'y aura jamais qu'un seul champagne.
Et la Russie ne représente que 30 à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 5 milliards au total.
Ce n'est pas un combat financier, c'est un combat légal. L'objectif est que l'appellation soit la plus préservée et la plus lisible possible.
Au moins, disent les producteurs, l'arrêt des exportations vers la Russie cet été aura mobilisé la diplomatie française sur cette évidence qu'on appelle un champagne de champagne, champagne.
Et en Belgique, le champagne s'appelle aussi champagne, surtout du côté de Bruges, où on a dû en boire quelques coupes après le nul décroché contre le PSG. Un partout, premier match de Ligue des Champions pour les Parisiens. Et une déception, l'attaque Neymar, Messi, Mbappé n'a pas fait de différence. L'attaquant français s'est même blessé au pied, il a dû sortir.
Je propose ce matin qu'on appelle le caviar désormais du taramanoir. Hein, comme ça, on rétablira une certaine forme de justice. C'était le journal de Christophe Lamarre. Merci Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. C'est en semi-nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp que va se courir ce Quintet. Et parmi les 16 partants qui en découdront sur la distance de 2400 mètres par terrain lourd, je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic Électron Libre, le numéro 8, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et sur une piste alourdie, le paramètre indispensable pour pouvoir réussir aujourd'hui à Longchamp. L'opposition sera constituée par les numéros 16, Shamkir, qui vient d'échouer du minimum dans un quintet similaire à Longchamp, 12, Salossin, souvent malheureux lors de ses dernières tentatives dans cette catégorie, alors qu'il avait les ressources nécessaires pour disputer les premières places, et 14, Port d'Auville, en net regain de forme, comme le prouve sa récente 5e place, obtenue dans un quintet fin août sur l'hippodrome de Deauville. Enfin, les numéros 10, Nuance, 6, Folleville, 11, Aonwolf et 1, Whiskid, peuvent, comme beaucoup d'autres, s'immiscer à l'arrivée de ce quintet. Mon pronostic, 8, 16, 12, 14, 10, 6, 11 et 1.
Rassurez-vous, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, les pronostics sont à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain. Il est 5h40, vous restez avec nous. On va parler dans un instant de cette grande journée de mobilisation nationale qui se prépare pour demander à ce que l'allocation adulte handicapé, l'AAH, ne soit plus calculée selon le revenu de son conjoint. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h41, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Ce jeudi est une grande journée de mobilisation pour faire entendre la voix des personnes en situation de handicap. 22 associations appellent à un rassemblement national. Elles demandent que la loi change afin que les caisses d'allocation familiale cessent de prendre en compte les ressources du conjoint pour calculer l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Nous sommes, Omblin, en ligne avec Arnaud de Broca, le président du collectif handicap.
Bonjour Arnaud de Broca.
Bonjour.
Alors pour commencer simplement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'AAH ?
L'AAH, c'est l'allocation aux adultes handicapés. C'est une allocation qui est versée sous certaines conditions et parfois assez restrictive aux personnes handicapées pour assurer un minimum vital, mais qui reste quand même en dessous du seuil de pauvreté, autour de 900 euros. Et dans les conditions restrictives de calcul, il y a notamment le fait que pour calculer son montant, on prend en compte les ressources du conjoint de la personne handicapée. Et c'est tout le débat qu'on va avoir aujourd'hui lors de nos rassemblements.
Vous parlez d'injustice sociale car à cause de ce calcul, une personne handicapée perd son indépendance financière.
Ben, ça revient effectivement à ce qu'une personne perde son indépendance financière parce qu'elle va toucher un montant d'AAH moins élevé, voire pas d'AAH du tout, selon les ressources du conjoint, et donc ce qui fait qu'on aboutit au contraire de ce que dit régulièrement le gouvernement en parlant de faciliter l'autonomie des personnes, de faciliter l'indépendance, de faciliter la liberté de choix de vie, et on est en fait dans un système qui soumet la personne handicapée à son conjoint ou à sa conjointe par ce calcul, et il ne permet pas à cette personne d'avoir un minimum de ressources alors que l'AAH est déjà un montant assez faible, puisque son montant avoisine les 900 euros, ce qui permet de toute manière de pas de vivre décemment aujourd'hui.
Donc, dans un couple sans enfant, dès que le conjoint gagne plus de 1017 euros net par mois, cette allocation décline progressivement jusqu'à devenir nulle quand ça dépasse les 2270 euros. Ça concerne combien de personnes ?
Il y a différents chiffres qui circulent, mais ce qui est intéressant aussi, c'est au-delà du nombre de personnes concernées, le montant financier que ça pourrait représenter. Là aussi, il y a des variations selon les partisans, mais en tout cas, on sait que c'est autour de 300 millions d'euros de mémoire. Il me semble que tout le monde se cale sur ce chiffre. Et nous, on considère que pour justement garantir cette autonomie, pour être dans le cadre d'un sujet qui est annoncé comme prioritaire par le président de la République et par le gouvernement, c'est une somme qui peut être engagée pour garantir enfin cette autonomie des personnes handicapées et bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Alors rappelons le contexte, hein, dans les grandes lignes, une proposition de loi permettant d'individualiser le calcul de l'AAH a été votée par l'Assemblée nationale une première fois en février 2020 contre l'avis du gouvernement et de la majorité. En mars 2021, le Sénat, majoritairement de droite, l'a ensuite validé, mais le 17 juin dernier, après une séance houleuse à l'Assemblée, le gouvernement a bloqué le vote. Nouvelle chance au Sénat, en octobre, ils maintiendront leur position.
Alors on peut penser que les sénateurs maintiendront leur position et que le gouvernement aussi maintiendra sa position, c'est-à-dire que les sénateurs y sont globalement favorables et le gouvernement va s'y opposer. C'est évidemment pour ça qu'aujourd'hui on va se mobiliser dans toute la France, qui va nous permettre de mettre une pression supplémentaire auprès du gouvernement. Et on souhaite que le débat au Sénat soit un peu plus constructif. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on en fait un sujet aussi d'élection présidentielle. Tous les partis politiques, à l'exception du parti La République En Marche, se sont déclarés favorables à cette mesure. Mais si ça ne l'était pas, on reviendra auprès de l'ensemble des partis politiques pour qu'ils transforment un peu leur affirmation d'être favorable à cette disposition.
La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, propose à la place un abattement forfaitaire de 5 000 euros sur les revenus du conjoint. Ce n'est pas la bonne solution pour vous ?
Non, alors évidemment, c'est une solution qui va améliorer certaines situations, mais on reste dans la même logique, c'est-à-dire qu'on améliore un mauvais système. Nous, on pense qu'il faut complètement séparer et ne plus prendre en compte les ressources du conjoint dans le mode de calcul. Or là, avec cet amendement-là et cette proposition du gouvernement, on reste dans le même système, on prend en compte les ressources du conjoint, mais effectivement, on introduit une disposition qui permet finalement de le prendre moins en compte. Donc il y a une logique qui reste et qui pour nous n'est pas la bonne.
Et encore des personnes seront laissées de côté. Ce que vous pointez du doigt, c'est que certains sont amenés en fait à choisir entre vivre en couple ou recevoir la totalité de leur allocation. En gros, est-ce que des personnes handicapées se voient dans l'obligation de renoncer sur le plan légal à leur liaison ?
Oui, ben on a beaucoup de témoignages comme ça. Alors on ne peut pas dire combien de personnes ça concerne directement, mais il y a beaucoup de personnes qui effectivement réfléchissent avant de s'engager ou quand elles se sont engagées, soit ne pas juridiquement alors se marier ou être ensemble avec d'autres liens, soit se séparer. Ça, on a beaucoup, soit ne pas vivre ensemble. Donc ça, on en a beaucoup des témoignages comme ça. C'est en ça que ça montre que cette législation est mauvaise et n'est pas favorable au libre choix de la personne handicapée qui ne peut pas choisir finalement comment elle veut vivre, y compris dans sa vie personnelle, sa situation.
Merci beaucoup Arnaud de Broca d'avoir accordé ces quelques minutes à Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du collectif Handicap. Merci.
Merci.
Il est 5h47 sur Europe 1, très bon réveil et bon petit déjeuner.
Alors si vous l'aimez salé ce petit déjeuner, écoutez bien ce qui va suivre.
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Julien, bonjour Amblin.
Bonjour.
Alors comme chaque semaine Olivier, vous mettez en avant un élément de notre patrimoine gastronomique. Qu'avons-nous au menu aujourd'hui ?
Eh bien je vous parle aujourd'hui du plus célèbre de nos jambons, le jambon blanc que l'on connaît aussi sous le nom de jambon de Paris. Précisons tout d'abord de quoi il s'agit, hein. C'est avant tout une recette, un jambon cuit dans un bouillon et désossé. Il est né dans la capitale, ce qui en explique sa dénomination, et popularisé au 19e siècle. Il est évidemment l'un des ingrédients phares de ce qui est le symbole de Paris, hein, le fameux jambon beurre. Mais hélas, cette spécialité n'a jamais été protégée et la dénomination jambon de Paris appartient aujourd'hui à des groupes industriels qui l'élaborent bien loin de la capitale et selon des recettes souvent éloignées de ce qui se faisait à l'origine.
Mais Olivier, vous avez trouvé du jambon de Paris élaboré à Paris.
Et oui, il ne reste aujourd'hui qu'un seul fabricant de ce fameux jambon qui l'élabore de manière traditionnelle dans Paris, plus précisément dans le 11e arrondissement. Yves Le Guel commercialise sous le nom de Prince de Paris un authentique jambon blanc parisien artisanal. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, il perpétue la tradition, hein, des jambons issus de cochons français sélectionnés, désossés à la main et cuits dans un bouillon maison. Je suis allé le voir. Et il a évidemment accepté de me donner un petit peu de sa recette.
Donc la saumure, c'est quoi? C'est une base de décoction de légumes, avec des vrais légumes qu'on va faire infuser pendant à peu près 6 heures. Ensuite, des épices de très bonne qualité sélectionnées et du sel de Guérande. Une fois qu'on a préparé tout ça, on va donc injecter cette saumure dans l'artère pour permettre de diffuser la saumure dans tout le muscle du jambon. Une cuisse qui rentre, c'est un jambon qui sort chez nous.
Oui, et les jambons sont ensuite cuits et laissés au repos pendant plusieurs jours avant expédition. Je vous en ai apporté, vous pouvez le voir et le déguster. Alors, vous constatez que ce jambon est plus gris que rose, hein, ce qui indique qu'il ne contient pas de nitrite, qui est une substance, vous le savez, plutôt controversée.
Et puis il est très bon aussi.
Potentiellement cancérigène. Alors voilà, il est très bon. Une cuisse, c'est un jambon, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'assemblage de différentes cuisses pour faire un jambon, ce que font en général les industriels. On trouve plein d'ADN de différents cochons dans un jambon. Là, ce n'est pas le cas. Il y a du goût, il y a de la saveur. Et quand on le regarde, d'ailleurs, il n'est pas uniforme. Et ça veut bien dire que c'est une cuisse qui a servi à l'élaboration d'un jambon.
Il est très, très fin. Trouve-t-on d'autres versions de ce jambon à Paris?
Oui, mais très peu. Alors, il y a encore, il faut le reconnaître, quelques charcutiers ou traiteurs qui produisent ponctuellement ce type de jambon de Paris. À Paris, je pense par exemple à la maison Pou dans le 17e arrondissement ou à Pascal Joly dans le 16e. Toutefois, je vous le rappelle, ce jambon n'est protégé par aucune appellation, mais vous trouvez quand même en province des artisans charcutiers qui élaborent de très bons jambons blancs. Il ne vous reste plus alors qu'à trouver une authentique baguette artisanale et un beurre fermier au lait cru. Et vous avez alors là le top des sandwichs, le jambon beurre, je le disais tout à l'heure. Et si ça vous tente, ben pourquoi pas, la semaine prochaine, on peut s'attaquer au beurre.
Bah avec plaisir.
Pour aller avec le jambon voilà, et la baguette la semaine d'après.
Ben voilà, on fera la totale, une complète, ma petite complète. Dame.
En tout cas, ce jambon-là n'a rien à voir avec ce que l'on peut manger et trouver dans le commerce.
Non, non, il est vraiment savoureux, il n'est pas sec. Alors, et il ne coûte pas vraiment plus cher qu'un jambon industriel, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que quand on achète du jambon industriel sous vide en grande distribution et qu'on regarde le prix au kilo, en réalité, on est souvent un peu effaré par le montant du prix au kilo. Et là, on est aux alentours de 25 euros, ce qui n'est pas du tout délirant pour un jambon de cette qualité.
Oui, un bon produit et un bon prix.
Voilà.
Et une bonne chronique. Merci beaucoup, Olivier Pouls.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Allez, on range le jambon et on revient à l'info à 5h51. L'essentiel de l'actualité, le journal permanent avec Alban Le Prince.
Un coup de théâtre, l'Australie rompt un contrat à 31 milliards d'euros pour l'achat de 12 sous-marins conventionnels à la France. Contrat conclu en 2016, décision regrettable, déplore le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué ce matin. Près de 35 euros bruts supplémentaires sur la fiche de paie à partir du mois prochain pour les salariés au SMIC. Une hausse mécanique prévue dans le Code du travail lorsque l'inflation dépasse 2%. Le début d'une nouvelle ère, celle du tourisme spatial. 4 Américains novices sont entrés dans l'histoire cette nuit en décollant de Floride à bord d'une fusée de SpaceX, 3 jours en orbite autour de la Terre. Des Parisiens peu convaincants et pas très convaincus pour leur entrée en Ligue des Champions hier soir malgré la présence du trio magique Messi, Neymar, Mbappé. Le PSG a été tenu en échec par Bruges, un partout.
Europe Matin.
L'actualité de ce jeudi s'écrit aussi dans vos quotidiens régionaux. C'est en France, un article de la presse régionale raconté par celui ou celle qui l'a écrit. Et aujourd'hui, Julien, eh bien, on prend la direction de la Côte d'Azur.
Bonjour Denis Caro.
Bonjour Julien.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, où l'on peut lire ce matin justement un dossier sur les assises de l'économie de la mer qui se sont conclues hier à Nice. Quel bilan faut-il en tirer ?
Bah, c'est un bilan plutôt positif. C'est un rendez-vous important. Hein. Le monde de la mer, comme beaucoup de secteurs d'activité, n'a pas eu l'occasion de se réunir depuis longtemps. Là, il s'est retrouvé à Nice, 1400 professionnels, dans une période de relance forte, avec aussi des enjeux extrêmement forts autour de la transition écologique. Et à 7 mois de la présidentielle, bah, ça a été l'occasion de mettre un petit coup de pression à l'État pour que son soutien et que les investissements soient à la hauteur, et des engagements ont été pris en ce sens, et notamment par Emmanuel Macron.
Oui, qui était justement présent mardi soir. Il est venu faire toute une série d'annonces. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ?
Moi, j'en retiens d'abord la forme, hein, comme il le fait souvent, Emmanuel Macron s'est adressé aux professionnels du maritime, en l'occurrence les yeux dans les yeux. Il n'a pas fait de grands discours, mais il a participé à des échanges avec des professionnels, avec des chercheurs, avec des universitaires. Et c'était l'occasion pour lui de délivrer un message très ciblé, hein, un message assez fort à l'attention des professionnels du secteur maritime. Il avait déjà pris des engagements devant eux il y a 2 ans. C'était également aux Assises de la Mer à Montpellier en décembre 2019. Et là, en quelque sorte, il est venu faire le bilan de ses engagements et de ses promesses. Et il a annoncé quelques mesures, alors des mesures très techniques, mais aussi l'octroi de crédits supplémentaires et notamment 50 millions d'euros en plus pour la relance du secteur de la pêche.
Et alors, illustration de ce discours, on va dire ciblé, il a dit défendre l'exploration des grands fonds marins, comprendre l'exploitation minière. Tout ça quelques jours après le Congrès mondial de la nature où le président s'était justement abstenu de tout commentaire sur ce sujet sensible.
Alors c'est le grand écart et un grand écart un petit peu difficile à gérer avec effectivement des impératifs économiques et le sujet très 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 présent hein, de la dimension écologique et environnementale. On n'est pas sûr que le discours d'Emmanuel Macron ait satisfait tout le monde, hein, à la fois les professionnels de la mer et les défenseurs de l'environnement. C'était vraiment du en même temps et là il n'a pas pu esquiver le sujet.
Alors on découvre également ce matin dans vos pages un article sur la place des femmes dans l'économie de la mer. Elle progresse cette place ?
Elle progresse, mais elle progresse lentement. Hein. Seulement 8% de femmes dans les métiers du maritime actuellement. Alors des efforts sont réalisés hein, pour augmenter cette proportion. Par exemple, l'École nationale supérieure maritime, qui forme chaque année 1200 étudiants, forme 10% de femmes et a décidé de passer cette proportion à 20% dès cette année. Il y a beaucoup de difficultés, hein. C'est des métiers souvent très techniques. C'est difficile pour les femmes d'imaginer partir en mer régulièrement 2 ou 3 mois. Donc, des efforts sont réalisés pour faire évoluer les mentalités. Et les employeurs aussi jouent le jeu. C'est le cas, par exemple, de Corsica Linea, qui a décidé de promouvoir très concrètement la carrière des femmes.
Merci beaucoup Denis Caro de nous avoir fait découvrir ces articles sur les Assises de la mer qui se sont conclus hier. Article à lire donc aujourd'hui dans Nice Matin. À très bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil avec nous, il est 5h58.
Et depuis près de 4 heures maintenant, 4 touristes filent à toute vitesse à près de 600 km au-dessus de nos têtes. 3 jours en orbite dans une capsule de 10 mètres cubes, sans astronautes professionnels à bord. C'est le pari pour leur réussite de SpaceX. Cette mission d'un nouveau genre marque-t-elle le réel début du tourisme spatial? Est-ce une chance ou au contraire une menace pour les projets scientifiques menés par de vrais astronautes comme Thomas Pesquet? Eh bien, on va en parler dans 10 minutes avec un spécialiste de l'exploration spatiale, l'astrophysicien François Forget. Et puis juste après, Omblin, votre partition.
Avec la magnétique intense, intimidante et torturée, Nina Simone. Put a spell on you. Sa résidence dans le petit club de jazz aux 3 Mayas à Paris au début des années 80, ce sera dans 20 minutes.
Mais avant Nina Simone, la météo avec vous, Anissa Haddadi. Encore un temps très humide sur une grande partie du pays aujourd'hui.
Oui, alors ça concerne les Pyrénées jusqu'à la Franche-Comté. Là, nous avons une bande pluvio-orageuse assez intense. Alors le temps est très couvert ce matin avec pas mal d'averses, quelques coups de tonnerre, notamment du côté du Pays Basque ou encore du Val-de-Saône. Donc ce matin, si vous habitez sur la moitié sud du pays, c'est parapluie obligatoire avant de partir. Et puis soyez prudents sur la route parce qu'on a sur le Massif Central et la vallée du Rhône encore quelques brouillard. Alors attention, il pleut là, hein. Quand on regarde les radars, il pleut nettement entre les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Des averses un petit peu plus fortes et des coups de tonnerre ce matin entre Toulon et Brignoles. Dans l'après-midi, la France sera nettement coupée en deux. Au sud de la Loire, beaucoup d'averses orageuses. Le retour du soleil sur le bassin méditerranéen, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis au nord de la Loire, là, après une matinée nuageuse entre les Pays de la Loire et l'Alsace, on aura de très belles éclaircies. Le temps est sec. 11 degrés à Rouen ce matin, 16 à Paris, 24 pour Ajaccio. Cet après-midi, ça baisse, couvrez-vous. 20 degrés à Brest, 22 à Paris, 25 à Nice et 28 à Nîmes.
Merci Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous. C'est le journal. Il est 6h.
Europe Matin, Ombline Roche et Julien Pierce.
On sauve ce qu'on peut sauver et puis le reste, bah, c'est poubelle. C'est du matériel, on va dire, entre guillemets. Mais bon, ça fait mal quand même.
Une longue journée de nettoyage commence pour les sinistrés du Gard. Malgré le mauvais temps, des nageurs se sont aventurés hier en mer. Bilan, 9 personnes sont mortes noyées, piégées par une mer déchaînée. Rien de personnel, la justification glaçante de Salah Abdeslam face aux victimes des attentats du 13 novembre. Pour la première fois depuis le début du procès, l'accusé a été autorisé à prendre la parole. Et puis vous, ce matin, comment allez-vous accompagner vos enfants à l'école? Eh bien, la marche à pied gagne du terrain, c'est ce que révèle un sondage IFOP, des habitudes bousculées par la crise sanitaire. Et le journal de 6 heures vous est présenté par Romane Hoquet. Bonjour Romane.
Bonjour à tous. Une journée noire sur le littoral méditerranéen. 9 morts noyés en une seule journée dans l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. Des seniors imprudents partis se baigner hier dans une mer démontée, piégée par la houle et les vents violents.
La vigilance orange est levée ce matin dans tous les départements, y compris dans le Gard, déclaré en état de catastrophe naturelle dès la semaine prochaine.
De quoi faciliter l'indemnisation des sinistrés. Parmi eux, il y a Aurélie qui vit à Huchot, un village traversé hier par un torrent d'eau. Cette mère est seule avec ses deux enfants dans un appartement en rez-de-chaussée dévasté par les eaux.
Non, on peut pas rester, c'est pas possible, c'est pas vivable. Tout est humide, les parquets gondolent, c'est pas possible, faut que ça sèche, faut tout refaire quoi. Avec les filles, oui, c'est filles de 8 ans et 13 ans, c'est pas possible de rester là. Oui, en attendant, oui, on va se faire loger. Bah, tout est foutu, quoi. Voilà, donc on fait des grands nettoyages. Tout, le lit, les canapés, machine à laver, frigo, tout est foutu. Oui, on sort tout, on nettoie, on essaye de récupérer le maximum, mais bon, on sauve ce qu'on peut sauver, et puis le reste, bah, c'est poubelle. Je m'attendais pas à autant, quoi. C'est du matériel, on va dire, entre guillemets. Mais bon, ça fait mal quand même.
Le témoignage d'Aurélie sinistrée du Gard au micro européen de Stéphane Burgat.
C'était l'un des leaders du groupe État islamique au Sahel et il a été tué par l'armée française. Annonce d'Emmanuel Macron cette nuit sur Twitter. Un succès majeur salué par le chef de l'État.
C'est la première fois qu'ils étaient autorisés à prendre la parole. Au 6e jour du procès des attentats du 13 novembre 2015, les 14 accusés présents se sont expliqués hier.
Certains ont minimisé, d'autres ont nié même leur implication dans cette soirée d'horreur. Salah Abdeslam, lui, a choisi d'assumer des propos glaçants, insupportables pour les rescapés et les familles des victimes. Gladys Lafitte.
Sa déclaration a duré moins de 5 minutes. D'un ton inhabituellement très calme et très poli, Salah Abdeslam a expliqué à la cour et aux victimes présentes que si les terroristes avaient visé la population et les civils, cela n'avait rien de personnel. Ce ne sont pas les valeurs de la France qui ont été attaquées selon lui, mais la France elle-même pour son engagement dans la guerre en Syrie. C'est la première fois en 6 ans que l'accusé s'exprime vraiment et assume. Un discours dur à entendre pour les victimes dont certaines ont fondu en larmes dans la salle. Maître Gérard Chemla est l'avocat de 130 parties civiles.
C'est sa partition, c'est désagréable, mais c'est comme ça, il va falloir faire avec. Et on ne va pas le condamner parce qu'il le revendique, on va le condamner pour ce qu'il a fait. Maintenant, rappelons-nous que le premier attentat important en France, c'est Mohamed Merah, et qu'à ce moment-là, il n'était pas question de bombarder qui que ce soit, et qu'on est en réalité dans une constante du terrorisme.
D'autres accusés ont montré de la compassion pour les victimes. Un autre a reconnu sa participation aux attentats, je cite, tout en minimisant son rôle. Tous seront interrogés sur les faits qui leur sont reprochés à partir du début de l'année 2022.
Le récit de Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1.
C'est l'une des informations de la nuit. L'Australie torpille l'accord conclu avec la France, une commande de 12 sous-marins.
Et surtout un contrat à plus de 31 milliards d'euros partis en fumée. L'Australie préfère se fournir auprès des Américains et des Britanniques. Un nouvel accord militaire pour faire face à la Chine.
6h04 sur Europe 1 avec la suite du journal de Romane Hoquet. La rentrée européenne, c'était hier à Strasbourg.
Une reprise marquée par le discours de la patronne de la Commission, Ursula von der Leyen. Dans 3 mois, la France prendra la présidence de l'Union européenne. Et justement, Isabelle Horry, dans son discours, Ursula von der Leyen a repris des thèmes chers à Emmanuel Macron.
Oui, c'est vrai que les planètes ont l'air de s'aligner. Les idées françaises ont clairement la cote à Bruxelles. Prenons la défense européenne. Ursula von der Leyen a annoncé qu'il y aura un sommet des chefs d'État sur le sujet pendant la présidence française. Et l'ex-ministre allemande de la Défense s'est lancé dans un plaidoyer pour plus d'autonomie vis-à-vis des États-Unis, inimaginable il y a quelques années.
L'Europe peut et clairement devrait faire plus toute seule. Ce qui nous a retenus jusqu'ici, ce n'est pas seulement un manque de moyens, c'est un manque de volonté politique. Si nous en avons la volonté, nous pouvons faire beaucoup au niveau européen.
Plus concrètement, elle propose qu'il n'y ait pas de TVA prélevée sur les achats d'armements fabriqués en Europe, une manière de dissuader d'acheter américain. La présidente de la Commission a aussi insisté sur la souveraineté industrielle, autre thème cher à la France. Elle promet une loi sur les semi-conducteurs pour augmenter les capacités européennes et réduire la dépendance vis-à-vis du reste du monde. Dans l'hémicycle, le commissaire français Thierry Breton était tout sourire.
L'éclairage d'Isabelle Horry, envoyée spéciale à Strasbourg pour Europe 1.
L'Europe qui ouvre aujourd'hui la semaine de la mobilité, un rendez-vous organisé dans plusieurs pays pour réfléchir à nos modes de transport.
Et parmi les trajets que l'on fait tous les jours et peut-être même en ce moment, il y a celui entre notre domicile et l'école de nos enfants. D'après un baromètre IFOP, si la voiture reste l'option privilégiée, eh bien la marche à pied gagne du terrain. Aurélien Fleureau.
Des distances courtes, moins de 2 km dans 40% des cas, mais c'est pourtant la voiture qui est l'option numéro 1, talonnée désormais de près par la marche pour 31% des personnes interrogées. Parmi les explications, le bénéfice pour la santé, une preuve que les messages sur les risques du manque d'activité physique chez les jeunes commencent à faire effet, se réjouit Bertrand Dumas, responsable du projet Mobi lancé par l'entreprise EcoCO2, mais c'est aussi cette année une conséquence de la crise sanitaire.
On voit que l'usage des transports en commun, en dehors du transport scolaire, vraiment les transports en commun classiques, on va dire, sont en baisse pour ces transports-là. Ils ont perdu 4 points. Il y a un effet Covid, c'est-à-dire que les parents ont préféré ne pas utiliser des transports où les enfants étaient assez proches les uns des autres et se sont plutôt reportés sur la marche.
L'impact sur l'environnement fait aussi partie des préoccupations principales des parents, mais c'est surtout l'aspect sécurité qui est primordial et qui explique ce choix vers des modes de déplacement plus rassurant pour des courtes distances, la voiture, la marche, l'écart scolaire, alors que le vélo et le covoiturage restent très marginaux, à peine 3% à eux deux.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
C'était le journal de Roman Hockey, merci Roman.
Il est 6h07 et on passe au sport avec Martin Lange. Et Martin, premier match et première déception pour le PSG en Ligue des Champions.
Oui, les Parisiens ont été tenus en échec hier soir par le club Bruges, 1-1. Le PSG qui avait pourtant bien commencé le match avec l'ouverture du score d'Ander Herrera. Mais la machine s'est enrayée, les Belges ont égalisé puis ont dominé des Parisiens apathiques. À l'image de leurs trois stars, un Neymar brouillon, un Messi discret et un Mbappé touché et remplacé en début de seconde mi-temps. L'entraîneur parisien Mauricio Pochettino reconnaissait d'ailleurs que son équipe avait encore beaucoup de progrès à faire.
Je pense qu'on a eu la possession, on avait bien démarré la rencontre, on a marqué, on était bien dans le match, mais avec l'égalisation, on leur a donné la possibilité d'y croire. Voilà, évidemment, on doit s'améliorer.
Prochain rendez-vous pour le PSG sur la scène européenne dans 15 jours contre Manchester City. City qui a écrasé Leipzig hier, victoire 6-3 malgré un triplé du français Christopher Nkunku pour les Allemands.
Nkunku qui n'a pas été le seul français à briller hier soir.
Non, l'attaquant Sébastien Haller a fait encore mieux. Il a inscrit un quadruplé contre le Sporting Portugal. Victoire de son club, l'Ajax 5-1 à Lisbonne. Autre tricolore décisif, le jeune Eduardo Camavinga. Après son but ce week-end, il a délivré une passe décisive à la 89e minute pour offrir la victoire au Merengue contre l'Inter de Milan. Enfin, dans les autres matchs de la soirée, Liverpool est venu à bout du Milan AC 3-2 et l'Atlético Madrid de Griezmann a été tenu en échec par le FC Porto 0-0.
La Coupe d'Europe, Martin, qui continue aujourd'hui.
Oui, avec la Ligue Europa, cette fois, elle entre en lice de 3 clubs français. Marseille se déplace à Moscou pour affronter le Lokomotiv. Lyon sera à Glasgow pour se frotter aux Rangers. Enfin, Monaco reçoit les Autrichiens de Sturm Graz à 21h.
Merci, c'était le journal des sports avec Martin Lange.
6h09 sur Europe 1, restez avec nous dans un instant. Nous serons en ligne avec l'astrophysicien François Forget pour revenir sur l'une des infos de la nuit. Le lancement réussi de la mission Inspiration 4 de SpaceX. 4 touristes à bord sans aucun astronaute professionnel. A tout de suite.
5h, 6h30. Europe Matin.
Il est 6h12, bon début de journée en ce jeudi. On va à présent lever les yeux au ciel puisque cette nuit, une fusée de la société SpaceX a décollé de Cap Canaveral en Floride. À son bord, 4 touristes et pas d'astronaute professionnel. On en parle, Julien, avec notre invité, un astrophysicien spécialiste de l'exploration spatiale.
Bonjour François Forget.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous avez suivi, j'imagine, attentivement cette nuit le lancement de la mission Inspiration 4 de SpaceX. Décollage réussi vers 2h du matin, heure française. Ça y est, l'équipage est arrivé à son altitude de croisière, à près de 600 km d'altitude.
Oui, ça c'est l'altitude maximale. C'est une orbite qui est un peu elliptique. Et donc effectivement, ils vont très haut. C'est un peu innovant. Ça faisait depuis les années 60 que 70 qu'aucun Américain, aucune mission américaine n'avait été aussi loin de la Terre, entre guillemets.
Alors, Omblin le disait, à bord de cette capsule, il y a 4 touristes en orbite, capsule entièrement automatisée, sans aucun astronaute professionnel. Le tout pendant 3 jours, c'est du jamais vu, on peut le dire, c'est historique.
Oui, on peut le dire. Il se passe beaucoup de choses historiques dans le spatial, ce qui est quand même intéressant. Hein. Rappelez-vous, finalement, ça fait presque 40 ans qu'on avait des vols de navettes spatiales, des vols de Soyouz. Depuis 20 ans, la Station Spatiale Internationale. Et tout d'un coup, depuis quelques mois maintenant, il se passe plein de choses avec ce Crew Dragon, cette nouvelle capsule. Et puis, ça va être suivi de plein d'autres choses, et notamment donc cette mission avec des touristes qui est un peu sans précédent. Ouais.
C'est vraiment le lancement du tourisme spatial ?
Alors, en toute rigueur, il y avait déjà eu des vrais touristes spatiaux qui avaient volé sur Soyouz il y a quelques années avec la société Space Adventure qui vendait des places sur Soyouz. Donc, il y en a eu quelques-uns. Le premier, c'était Denis Titov. Vous avez un Québécois francophone qui s'appelait Guy Laliberté, rappelez-vous, qui avait fait plein de photos, qui avait été sur la Station Spatiale Internationale. Mais là, c'est encore autre chose, puisque c'est vraiment une mission dans laquelle aucune agence spatiale est directement impliquée, on va dire. Et donc, c'est vraiment SpaceX, compagnie privée, qui a vendu les sièges de la capsule et vendu ce projet-là.
Le fait d'avoir choisi 4 Américains lambda, entre guillemets, parce qu'on précise qu'il y a tout de même un milliardaire à bord, ça a un beau coup de com' tout de même de la part d'Elon Musk, le patron de SpaceX.
Oui, on peut dire ça, mais c'est pas le coup de com' n'est pas que pour SpaceX, au sens où c'est vraiment, ça fait partie du plan, entre guillemets, y compris de la NASA, qui a commandé, co-développé la capsule Crew Dragon et qui a souhaité depuis le début que ça devienne quelque chose qui soit commercialisable pour des milliardaires, évidemment. Mais le milliardaire en question a payé entièrement les places sur la capsule. Donc, c'est un coût commercial aussi, on va dire. Et ça sera suivi par bien d'autres exemples, des vols y compris vers la Station Spatiale Internationale, donc vraiment le niveau au-dessus, entre guillemets, qui des vols un petit peu plus longs, etc. etc.
Il y a tout de même une sacrée prise de risque, envoyer 4 novices dans l'espace sans aucun professionnel pour les diriger. C'est osé, pour ne pas dire inconscient, à ce stade du développement de cette capsule, dont je rappelle que ce n'est que le 3e vol commercial.
Oui, alors c'est le... En tout cas, c'est le 4e vol, parce qu'il y avait un vol de test avec des astronautes suivi par 2 vols, notamment avec Thomas Pesquet, qui est un professionnel. Alors, on peut quand même me dire une chose, c'est qu'il ne faut pas croire que ce sont des touristes qui sont arrivés 3 jours avant, qui sont montés, et puis qui sont partis tranquillement. En réalité, ils ont quand même... D'abord, ce sont la plupart... vous avez là-dedans des vrais pilotes qui auraient pu être sélectionnés pour être astronautes et qui ont suivi un entraînement quand même, qui ont eu le même entraînement en gros pour ce qui concerne le Crew Dragon que Thomas Pesquet, pour faire simple. Donc ça fait plus de 6 mois qu'ils sont là-bas chez SpaceX et ils sont vraiment entraînés en simulateur à peu près comme des astronautes. Bon, cela dit, ils n'ont pas été sélectionnés avec autant de rigueur, ils n'ont pas fait une formation aussi longue qu'un vrai astronaute. Une fois que j'ai dit cela, est-ce qu'il y a un risque ? Ah bah oui, parce que les vols spatiaux, c'est quand même dangereux. Il suffit de voir un lancement de fusée pour se dire quand même que c'est quelque chose d'impressionnant.
Et puis on se souvient d'Apollo 13, par exemple.
Oui. Et puis depuis, surtout, vous avez eu des notamment pour ce qui concerne la navette spatiale, vous avez eu 2 échecs avec à chaque fois 7 morts. Et si vous aviez, et c'est possible, l'équivalent avec ce vol, effectivement, il y aurait un risque un changement complet de la vision qu'on aurait de la chose. Si on se souvient bien, rappelez-vous, dans les années 80, la NASA souhaitait justement populariser l'idée que l'accès à l'espace n'était pas que pour les professionnels et que c'était facile. Ils ont envoyé des sénateurs, l'actuel dirigeant de la NASA est un sénateur qui s'est juste entraîné un peu, qui n'est pas suivi à la navette spatiale. Et surtout, le Challenger en 1986 avait emporté une institutrice qui, pareil, était très peu entraînée, un peu pour montrer qu'on pouvait maintenant aller dans l'espace. L'espace était pour tout le monde. Et elle était morte dans l'accident de Challenger en 1986. Donc, si l'équivalent arrivait, finalement, ce serait ça. Oui, ce serait une catastrophe. Mais on n'est pas là. Et donc, SpaceX a suffisamment confiance pour se dire que, bah oui, c'est partie de son business. Et il y a peu de chance quand même qu'il y ait un accident.
Oui, heureusement. Dernière question, François Forget. Est-ce que vous voyez ce mouvement de tourisme spatial comme une opportunité d'accélérer la conquête spatiale ou au contraire comme un frein à des missions plus sérieuses ou scientifiques ? Je vous pose cette question parce que, en parallèle, l'avenir de la Station Spatiale Internationale, que vous mentionnez il y a quelques instants, semble compromis. Elle devrait être démantelée et détruite en 2025 et il n'y a rien prévu aujourd'hui pour la remplacer.
Officiellement, la NASA et les partenaires dont nous sommes partis en Europe soutiennent l'idée que l'idéal, ce serait qu'il y ait quelques missions commerciales, industrielles, privées, qui puissent finalement contribuer à son utilisation. Il va y avoir des missions touristiques, je l'ai mentionné tout à l'heure, ce qui fait qu'on peut considérer, en tout cas c'est le point de vue officiel, que ces missions commerciales, éventuellement touristiques, mais ce serait mieux si c'était aussi industriel,
pourrait éventuellement financer un remplacement.
Exactement.
Merci beaucoup.
C'est vraiment le discours officiel et quand on est astronome professionnel, on voit peut-être pas ça d'un très bon œil, mais ça va arriver. Il va y avoir de nombreuses missions dans les mois qui viennent.
Et on va les suivre attentivement. Merci beaucoup, François Forget, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes astrophysicien et spécialiste de l'exploration spatiale. Bonne journée et à bientôt.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
6h21 sur Europe 1, le rappel de l'actualité avec Alban Leprince.
Le contrat du siècle devient l'échec du siècle. L'Australie annonce rompre le contrat pour l'achat de 12 sous-marins conventionnels à la France. Ce sont 31 milliards d'euros qui s'envolent. Décision regrettable, assure le ministère des Affaires étrangères ce matin. Le chef du groupe État islamique au Grand Sahara, tué par les forces françaises, annonce d'Emmanuel Macron cette nuit sur Twitter. Un nouveau succès majeur, se félicite le président. Ils sont partis pour 3 jours, 4 tours. Les touristes américains ont décollé cette nuit de Floride à bord d'une fusée de SpaceX, le premier vol sans aucun professionnel à bord.
C'est le rendez-vous musical de cette matinale, votre partition Omblin. Et c'est aujourd'hui que sort en librairie une toute nouvelle biographie de Nina Simone. Elle est signée du journaliste Frédéric Adrien. Ce matin, nous retrouvons la chanteuse au tout début des années 80 quand elle s'installe à Paris.
Lorsqu'elle trouve refuge au Trois Maillets, Julien, un club de jazz de la rue Galande au cœur du quartier latin, à deux pas de Notre-Dame, un lieu improbable, écrit Frédéric Adrien, surtout pour celle qui par le passé s'est produite dans les plus grands music halls du monde, à l'image du Carnegie Hall à New York.
I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul.
Au sommet de la gloire, 10 ans plus tôt, la chanteuse et pianiste virtuose est désormais en train de toucher le fond.
Sous les feux des projecteurs, Nina Simone reste une figure majeure de la musique noire et une artiste profondément militante, engagée dans la lutte pour l'égalité et pour la communauté afro-américaine. Dans l'ombre, elle est en proie à ses démons, son amertume croissante face au racisme dans son pays, ses problèmes avec le fisc, son instabilité mentale de plus en plus criante. Nina Simone décide d'échapper à cette existence mouvementée aux États-Unis. Jacques Bonny, le patron des Trois Maillets, va sauver sa carrière et peut-être même sa vie.
Entre 1981 et 1983, Nina Simone se produit régulièrement aux Trois Maillets, souvent accompagnée de ses musiciens.
Un seul set par soir, sa présence sur scène est magnétique, intense et parfois aussi malaisante. Sans crier gare, la chanteuse peut littéralement exploser, réprimander le public si par malheur un bruit venait perturber son tour de chant. On lui diagnostiquera des troubles bipolaires.
Et malgré tout, dans ce lieu confidentiel, les Parisiens se pressent pour venir l'écouter.
Des spectateurs qui découvrent souvent sa présence par hasard. Nina Simone reprend certains de ses plus grand succès et pour un salaire plutôt bien négocié, elle perçoit l'intégralité des recettes des entrées. Jacques Bonny lui offre une seconde chance, il lui offre surtout l'opportunité de reprendre le contrôle de sa carrière qui, quelques années plus tard, va redémarrer. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know?
butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me.
Feeling Good par Nina Simone. Découvrez ou redécouvrez sa vie tumultueuse à travers une toute nouvelle biographie très documentée qu'on doit au journaliste de la revue Soulbag, Frédéric Adrian. Elle paraît aujourd'hui aux éditions Le Mot et le Reste.
Merci Omblin. 6h25, vous vous sentez bien sur Europe 1 hein?
Oui,
alors restez avec nous. Dans un instant, Dimitri Pavlenko va s'installer dans ce studio pour vous accompagner jusqu'à 9h. Bonne journée et à tout de suite.